Très bien, donc on va essayer d'attraper un élément de la paracha de Vayechi. Je m'inspire aujourd'hui d'un rave très intéressant qui s'appelle le rave Pinchas Friedman, qui a cette connaissance absolument magnifique de la Torah et en même temps beaucoup de chassidout. Donc on va être amené à faire un petit peu de chassidout ensemble. Par rapport donc à cette paracha de Vayechi, vous savez que c'est la paracha de Vayechi et ce moment où Yaakov va nous quitter et il réunit autour de son lit de mort, il réunit tous ses enfants. Et il y a quelque chose de tout à fait notable dans le personnage de Yaakov, qui jure par rapport à tout ce qui a précédé depuis la création du monde, c'est que, venez, servez-vous, les plats sont là. Eve, tu peux directement prendre ce que tu as commandé. Donc, ce qui jure par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, c'est que systématiquement depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé une dualité synonyme de diversité obligatoire. L'homme est le seul être qui est né pas en couple, ouais. Ça veut dire que tous les animaux sont nés masculins et féminins, mâles et femelles. L'homme est né en deux temps, d'après le texte de la Torah. Il y a eu d'abord l'homme, puis ensuite l'apparition de la femme. Mais ce qui est intéressant, dans la première version, le texte précise que l'homme est né Zahar ou Nekeva. C'est-à-dire que le premier être qui est né, avant l'apparition de la femme, de Chava, on va dire, même pas la femme, c'est un être qui était masculin-féminin, donc c'est Adam. Adam, qu'on traduit par homme, c'est faux. Il faudrait dire une sorte d'hybride. Ouais, un hybride, Toyota, ouais, Toyota, un peu comme les... Ouais. Donc il était masculin-féminin. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de lui, il renfermait déjà des inclinaisons qui vont dans les deux sens, une sorte de contradiction évidente. Il y a un principe du masculin dans la Torah, dans la vie, dans la nature, il y a un principe du féminin, et il incorporait les deux. Ce n'est qu'après quelque temps que Hachem va lui mettre le féminin par excellence, la femme par excellence, en face de lui, mais il avait déjà ce monde de la contradiction, de la diversité qui est à l'intérieur de lui.
On parle pas de Freud.
Comment ?
On ne parle pas de Freud, là.
Pour l'instant, je parle que de Torah, moi. Je me connais bien. Maintenant, ça c'est donc le premier point, et puis on va voir petit à petit que des tentatives de gestion de la diversité vont être mises en place. Donc il y a Adam et Chava. Chava va inciter Adam à fauter. Et c'est intéressant dans le texte, on voit jamais que Adam va lui tirer les oreilles, va lui en vouloir. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, elle était la représentante de quelque chose qui est à l'intérieur même de Adam. Et donc on ne peut pas la blâmer, puisqu'en fait, c'est se blâmer soi-même. Donc il y a ici ce point donc, de divergence. Il y a des enfants qui vont naître, Caïn et Abel, ça se passe très mal. On n'arrive pas à accepter la différence de l'autre. Caïn, ouais, il a son métier, il est agriculteur. Abel, lui, s'occupe du bétail. Et ils vont avoir un point de divergence par rapport à leur service divin. Et boum, premier crime de religion, premier homicide volontaire mis en place par Caïn. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à accepter les systèmes de l'autre. Et on retrouve ça sans arrêt dans tout le texte de la Bible. Ouais. Tu continues le texte et tu vois que une fratrie va naître dans les enfants d'Avraham, d'un côté Ishmael, de l'autre Yitzhak. Et tu vois que ça ne fonctionne pas. Il y a le feuge, il y a l'arabe. Ouais, et ça ne fonctionne pas. Ouais, donc il y a sans arrêt des volontés. Très tôt, il y a Ishmael qui voulait jouer aux cow-boys et aux indiens avec son frère Avraham, mais il jouait avec des vraies flèches. Donc il espérait, par inadvertance, soi-disant, tuer Yitzhak, qui était jaloux de lui. Donc en contexte un peu complexe. C'est-à-dire que systématiquement, on n'arrive pas à créer une union. Une union d'individus qui sont différents, qui sont foncièrement différents. Ouais. Et arrive maintenant encore un deuxième couple qui s'appelle le couple de Yaakov et de Esav, deux frères jumeaux. Cette fois-ci, les divinités ne peuvent pas venir des parents puisque les parents, c'est les mêmes. Au moins, avec Sarah et Agar, alors tu as quand même deux mères différentes, qui ont des statuts différents, il y a beaucoup de choses. Donc on peut entendre les différences et les problèmes de jalousie. Mais là, tu as deux frères, Yitzhak et Yaakov, qui sont des... Yaakov et Esav, excusez-moi, qui sont des jumeaux. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant à explorer des deux, puisque chacun a son domaine particulier. Et ça avait été prévu d'être un homme du champ, c'est-à-dire un individu qui, depuis le début, c'est ça qui se passait dans l'activité intra-utérine, il était attiré par les lieux d'Avodah Zara. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? Parce qu'en fait, il était attiré pour tout simplement aller les convertir, pour essayer de leur expliquer qu'ils se gourent. Donc le champ normal de Esav aurait dû être quelqu'un qui est dans l'interface avec les non-juifs, ouais, avec les personnes qui, quelque part, sont dans des systèmes complètement inventés. Ça, c'est donc le projet initial de Esav. Et Yaakov de rester, lui, à l'intérieur de la tente. Donc, on avait ici deux types de figure du judaïsme qui devait émerger. Et malheureusement, encore une fois, ça capote. Ouais. Ça veut dire que Esav n'a pas appris de Yaakov. Yaakov était prêt à apprendre de lui. Il va apprendre de son frère Esav le respect ultime des parents. Et tellement il apprend qu'en fait, il a une certaine forme de complexe d'infériorité, Yaakov, par rapport au respect ultime que Esav avait vis-à-vis de ses parents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à attraper du personnage de Esav, cette diversité, cette façon d'aborder la vie. Et même lorsque Esav aura vendu sa mère, ça veut dire même lorsque Esav aura craché sur le rôle qui lui avait été destiné a priori, et il va le donner à Yaakov, ça veut dire que Esav, il n'est plus rien du tout. Et Yaakov est prêt à aller apprendre des leçons, comment on respecte ses parents auprès d'Esav. Mais Esav n'est pas prêt à apprendre chez Yaakov. Donc encore une fois, on a ici un problème de dissonance entre la gestion de la pensée de l'autre, la gestion du mode de fonctionnement de l'autre. Jusqu'à arrive justement Yaakov, qui lui va créer la chose absolument incroyable à créer, c'est-à-dire la Mita Shelema. Mita Shelema, ça veut dire la couche parfaite. Il a 12 enfants qui sont tous ultra différents, chacun dans son trip, chacun dans sa profession, chacun dans sa façon de servir Hachem. Et les 12 sont dans une entente absolument incroyable. 12 frères, c'est-à-dire après les brisures, ouais, on va arriver, donc on a vu les parachutes de la semaine dernière, à un shalom qui va être mis en place entre Yehuda et Yosef, donc les deux têtes de liste, si vous voulez, des enfants de Rachel et de Léa. Et cette union, elle va être une union qui est basée pas simplement sur une sorte de pacte de non-agression, hein, qu'on a pu voir dans tous les moments de guerre à l'intérieur de l'histoire. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'acceptation que fondamentalement le monde n'a pas besoin d'un Mashiach, mais de deux Mashiach. Toujours complexe chez nous, les Juifs. Il y a le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David. Ouais, et chacun aura sa mission tout à fait spécifique. Et donc, la place de Yosef est considéré maintenant par Yehuda comme étant tout à fait légitime. Il ne fait pas obstruction à ce projet de royauté qui était porté normalement naturellement par Yehuda. Et vice-versa, Yosef comprend parfaitement que tôt ou tard arrivera à cette royauté qui est portée par Yehuda, par David, donc, par le personnage de David, et il faudra être capable de se retirer de l'histoire. Donc il y a ici quelque chose de tout à fait gigantesque qui est mis en place par le travail de Yaakov. On a enfin créé une fratrie d'individus totalement différents et qui vont se fertiliser dans leur différence. Ça, c'est le génie qui a été mis en place par Yaakov. Maintenant, dans cette gestion des contraires, dans cette gestion des différences, alors je vous propose d'essayer d'investir un petit peu le rapport entre Issachar et Zevoulou. Vous savez qu'en fait, parmi les deux enfants de Yaakov, il y en a un qui est l'emblème même de l'étude de la Torah, qui s'appelle Issachar. Issachar, il est comparé dans la bouche de Yaakov comme étant un âne. Ouais. Et un âne, on dit, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui va... Vayar Menuchakitov, il a vu que le repos, eh bien, Vayet Shirmonisbol, il va tendre son épaule pour encore plus supporter l'âne. Il supporte une charge. C'est celui qui va supporter à lui seul la charge de l'étude de la Torah permanente. Issachar, c'est l'emblème même de la tribu, donc de la tribu d'Issachar, c'est l'emblème même de l'étude de la Torah. Ça, c'est le personnage de Issachar. Et il a son frère qui s'appelle Zevoulun. Ouais. Et Zevoulun, lui, c'est l'emblème même du business. C'est the businessman de la famille. C'est le Bill Gates de la famille. Chacun en a un. Ouais. L'oncle d'Amérique, comme on dit. Et ben, il y a un oncle d'Amérique dans chaque famille. Là, dans la famille de Yaakov, c'est Zevoulun.
En Amérique,
c'est l'expression l'oncle d'Amérique.
C'est
une expression.
Ah non, mais c'est
bon,
c'est
donc, Zevoulun, ouais, nous dit le texte, regardez comment c'est intéressant. Donc on est au moment où Yaakov s'apprête à quitter, et il donne un message absolument essentiel à chacun des enfants. Il vient de quitter le message qu'il donne à Yehuda, et il parle maintenant à Zevoulun avant de parler à Issachar. On verra que Issachar viendra après. Donc on parle d'abord business, enfin on parle de celui qui porte le flambeau du business. Zevoulun lechof yami mishka, nous dit le texte de la Torah, donc c'est Yaakov qui parle. Zevoulun occupera les chof yamim, le littoral des mers. Vous les chof oniot, il offrira des ports au vaisseau. Vous donc les chof oniot, va veyar kato al Tzidon, et sa plage atteindra Tzidon. On demande, on te localise ici le lieu de réalisation de ce businessman. Apparemment, il va dans le business, ouais, dans les ports, dans la gestion des marchandises, dans la gestion du commerce, des plus-values. Ouais, donc un petit peu, c'est ce businessman qui se trouve là-dedans. Maintenant, Rachid va être intrigué par ce besoin de spécifier ce lieu de réalisation. Tu aurais pu très bien dire, bah, il sera businessman. Ouais. Un mocher, pas un vendeur. Un vendeur, il aurait dit, t'es mocher. Bah, tu aurais compris qu'en fait, il fait du business en prenant de la truc et il va s'occuper aussi de son frère. Pourquoi tu as besoin d'affilier, ouais, de le planter quelque part, de l'ancrer, si on prend une image qui est dans le monde de la mer. Tu l'ancres dans la mer, ouais. Alors regardez un petit peu encore plus Rachid qui va spécifier un peu plus les choses. Le Rachid en bleu. Al-Khofayem, son territoire, donc, sera au bord des mers. Le mot arémé employé par le Targum signifie bord en français, marche. Al-Khofayem, ouais. Marka, c'est la marche. Marka, c'est la marche, ouais. Donc il sera sur la marche, ouais. T'imagines qu'il y a une sorte de petite marche qui permet de séparer la terre ferme de l'eau. Donc il sera, nous dit Rachid, constamment à bord des navires, là où il y a un port, là où les bateaux déchargent la marchandise. Zevulun s'occupera de négoce et il assurera la subsistance de Issachar, lequel s'occupera de l'étude de la Torah. Donc il y a une sorte de deal, un deal, ouais, un joint qui est mis en place. Il y en a un qui s'affaire au business, il amène du fric, et ce fric va permettre notamment de nourrir aussi pas que sa tribu Zevulun, mais va aussi nourrir la famille de son frère, qui lui s'adonne 150% à l'étude de la Torah. Et nous précise Rachid, c'est ce que dira Moshe, on va essayer d'analyser ce texte, au moment où Moshe va aussi parler des tribus, il va dire « Samehar Zevulun Betsetecha, réjouis-toi, pardon, Zevulun Betsetecha, dans tes sorties, donc, t'imagines des sorties pour le business, hein. Il devait sortir avec son bateau, son navire, pour aller essayer de faire du... acheter de la soie en Inde, enfin en Inde, ou plutôt en Chine, ouais, je ne sais pas comment il faisait. « Veissachar be'o'alecha » Et toi, Issachar, tu dois te réjouir aussi de be'o'alecha dans ta tente. « Zevulun yotse be'pragmatia » Zevulun lui, il sort be'pragmatia pour le business. « Veissachar osek batora be'o'alim » Tandis que notre Issachar, lui, il est, on va dire, ancré, il est affairé, il s'occupe de la Torah dans ses tentes. Voilà un petit peu donc ce qui est marqué ici dans ce mariage entre les deux. Issachar d'un côté, Zevulun de l'autre. Et nous dit le texte, apparemment, c'est dans les sorties, ouais, que Zevulun va se réjouir. Ouais, donc il faut se poser la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle de ces deux tribus, il a besoin de préciser que Zevulun se réjouit. Ouais. C'est en général, on pourrait entendre le fait que c'est une joie de gagner du fric. Faire de l'argent, on peut imaginer que ça procure chez l'individu de l'argent. Mais de la cipra, de la joie, il n'y a, rien de mal à cela. Mais là, apparemment, la joie, elle provient du moment de cette cetera, au moment où tu sors. Mais au moment où tu sors, tu n'as pas encore fait du fric. Au moment où tu sors, tu ne fais que t'affairer pour aller dénicher les contrats ou bien pour aller vendre ta marchandise. Mais pour l'instant, tu peux, même si tu as des contrats déjà, tu n'as pas encore la monnaie sonnante et trébuchante dans la main. Donc il faudrait quand même se poser la question, en quoi cette sortie, il va prendre le navire, pourquoi il est heureux? Ouais, c'est peut-être compliqué, il va quitter sa femme, ses enfants, ouais, c'est...
Ça monte. C'est que son frère va prier pour lui.
Alors peut-être qu'en fait, cette résistance provient du fait qu'il sait que son frère est dans la tente. Donc il y a une sorte de passage ici qu'on va essayer d'analyser. Qui est une sorte de communication des choses, mais... ouais. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Bon, maintenant.
Le Rav Pinchas. Ça a été décrété par la Hachem ou c'est...
Par Yaakov.
C'est Yaakov qui a décrété que chaque enfant...
Qui a placé chacun de nos enfants dans un trip particulier en fonction de ce qu'il est. D'ailleurs, il va leur donner à chacun une comparaison à des animaux. Ouais. On va les surnommer. On aura la gazelle, on aura le nachash, on aura le serpent, on aura... qu'est-ce qu'on aura comme on aura le harrier,
le lion,
le harrier, ouais, donc le lion. Donc on a plusieurs figures, c'est-à-dire il y a quelque chose de tout à fait spécifique à chacun des enfants. Et d'ailleurs c'est comme ça, les enfants, ils ont chacun une identité tout à fait propre. Il faut être capable de la déceler. C'est pas des numéros, c'est pas non plus des clones. Ouais, même si la société française adore cloner les individus, il faut être capable de pouvoir donner à chacun des enfants exactement ce pourquoi il est fait le mieux. Qu'est-ce qui va le rendre le plus épanoui? Ça veut dire c'est l'endroit, la profession dans laquelle il pourra mettre
son mazal propre.
Son mazal propre, c'est-à-dire quoi? Son mazal, c'est que c'est en fonction de sa structure, ben il a quelque chose qui lui correspond, dans lequel une grande partie de mes talents pourront s'exprimer, trouver le bon boulot.
C'est par névoie, en fait.
Pas forcément par névoie, c'est par observation. C'est-à-dire que lorsqu'on observe les talents d'un individu, on arrive à savoir, toi, t'es fait pour ça, moi, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un a certaines prédispositions, Ben, si tu es un parent alerte, averti, tu vas essayer de repérer cette prédisposition, tu vas dire, ben voilà, bingo, on va essayer d'attraper ça, quoi. Ça, c'est donc le point qui est marqué ici. Alors, on va essayer de développer, donc répondre à cette question essentielle. Pourquoi donc ancrer Zevulun, une préciser ça, son business, pourquoi on a besoin de préciser à quel point son business était lié à l'eau, au monde marin? Encore une fois, on aurait dit dans le texte que Zevulun, il sera mocher, ou il sera socher, un marchand, ça aurait été pareil. Finalement, c'est ça, il va faire du il gère des marchandises, donc c'est un marchand finalement. Ouais. Comment on appelle ça ces gens? C'est un pêcheur. C'est un bonhomme qui fait du négoce avec ce qui dans les ports, c'est quoi? C'est un marchand, businessman. Ouais. Donc on aurait pu très bien, Yaakov aurait pu très bien dire que t'es un marchand. Il y a un besoin de spécifier. C'est un marchand qui est au contact de l'eau. Alors Rabbi Pinchas va essayer de voir quatre symboliques dans l'eau qui sont absolument essentielles. La première des symboliques, ouais, on va s'inspirer un petit peu de la bracha qui a été faite par Yaakov à ses deux petits-enfants, Ephraïm et Menaché. Je vous rappelle que Ephraïm et Menaché sont les deux fils de Yosef, qui vont être, bien que fils de Yosef, donc fils d'une tribu, vont être eux-mêmes érigés au rang de tribu. Donc ils font un saut de génération. Et donc parmi les tribus, il n'y aura pas la tribu de Yosef, il y aura la tribu de Ephraïm et de Menaché. Donc il y a ici un changement, c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs, lorsqu'on bénit nos garçons, le jour de Shabbat, alors on dit Yesimer, Yesimecha Elohim, qui est Ephraïm ou qui est Menaché. Quand on bénit les filles, on dit Kessara, Rivka, Rachel, Veléa. On fait référence au matriarche. Mais quand tu bénis tes enfants, tu ne fais pas référence au patriarche. Tu n'aurais plus rien à dire que je fais une face de toi comme Avraham, Isaac et Yaakov, qui sont des. On dit donc Ephraïm ou Menaché. Alors une des raisons qui est donnée, c'est que premièrement, Ephraïm ou Menaché ont fait ce saut de génération. Ça veut dire qu'ils ont réussi à abolir cette chute inéluctable de cette Yerida Tadorot, de cette descente des générations, qui est quelque chose qui nous mine, parce que qu'on le veuille ou pas, de génération en génération, on est de moins en moins performant. Pas forcément au niveau intellectuel, on peut accoucher des esprits pas moins brillants que Rabbi Akiva Eiger, mais on accouche des esprits beaucoup moins concentrés, mais beaucoup plus dispersés, si tu veux. Et donc, du coup, l'efficacité du niveau de Torah, elle s'en ressent.
Il n'y a pas les réflexes.
C'est pas plus que les réflexes, c'est aussi un problème de concentration. On n'est pas capable, par exemple, de rester, comme le faisait le Rabbi de Brice, par exemple, Rabbi de Brice, qui était plus grand de sa génération, début du XXe siècle. Lui, il avait des cédères, il avait des plages horaires de révision de la Gemara. Ouais. Une révision de la Gemara, il faisait deux plages horaires de 8 heures d'affilée par jour, avec une pause au milieu. Donc, il faisait 8 heures d'affilée sans s'arrêter. Sans s'arrêter, rien, d'accord? Et pendant ces 8 heures, il arrivait à étudier et réviser en même temps 16 pages de Gemara. Il écrit ça dans ses mémoires. Hein. 16 pages de Gemara avec Rashi, Tosfot, Maharsha, Rosh, Rif et Rambam. Ouais, ça déprime, hein. Désolé. Je suis désolé, ouais. Donc en 8 heures, il faisait 16 d'apim. Normalement, un Bachou Yeshiva, un élève de Yeshiva normal, il peut taper en 3 heures, on va dire en 2 heures, un rapide, tu vois, il peut taper une demi-page de Gemara. Une demi-page de Gemara avec Rashi Tosfot sans le Roche, le Rambam, le Maharsha et tout ça. Ouais, ouais, c'est niveau standard d'aujourd'hui. Ouais. Donc lui, il se tapait 32 dapim par jour. 32 dapim par jour. Ouais. Et en profondeur, pas truc. Ça, c'était le début du XXe siècle. C'était hyper courant à l'époque, au début du XXe siècle, des gamins qui, à la bar mitzvah, finissaient le chasse. À la bar mitzvah, à 13 ans. Mon époque, quand j'étais en Eretz Bnei Brak, Kollel, mon Rosh Kollel, qui était le fils de Rav Gedel Nadel, il s'appelle Rav Shmulik Nadel, Rav Shmuel Nadel, très grand ami Raham, lui c'était The Star, parce qu'à 13 ans, son père l'a fait finir le chasse. Mais c'était genre le star, enfin, c'était rare quoi, tu vois, genre, tu sais, le fils de Rav Gedel Nadel, à 13 ans il a fini le chasse. On est donc il a dû le finir, il doit avoir peut-être 20 ans de plus que moi, 70 ans, donc il a dû faire ça. Donc, après 40, c'est-à-dire, le bonhomme, genre, dans les années 50-60, tu vois un gamin qui fait sa bar mitzvah, tu dis il a fini chasse, c'est star olamique, quoi, hein, star mondiale. Donc ça, c'est un petit peu la différence. Donc, encore une fois, c'est juste une question de différence, pas d'intelligence, mais être capable de pouvoir être complètement dedans pendant longtemps. Ouais. De ce qu'on fait, on peut être brillant même dans la vie, mais tu restes une demi-heure, après boum, tu zappes. Tu zappes. Donc, boum. La marmite elle a été à ébullition. Au lieu de la laisser à ébullition, bon, tu éteins. Après, tu remets. Après, tu éteins. Donc, on passe notre vie dans des coupures assez terribles, qui fait qu'en fait, après, on n'arrive pas à avoir cette même intensité. Il y a une notion de synergie lorsque tu cumules les heures en concentration, qui fait qu'on n'a plus ça. C'est en fait la grande différence. Je rappelle toujours cette histoire de Rav Moshe Feinstein, et je finis là-dessus sur l'histoire, pas le cours, hein, mais juste au niveau de cette idée. Il y avait donc un jour Rav Moshe Feinstein qui voyageait en avion, et puis donc il était assis à sa gauche, il y avait son fils, et à sa droite, il y avait un voyageur. Et puis au bout d'une heure de vol, le voyageur s'adresse à Rav Moshe Feinstein, il dit, écoutez, Rebbi, c'est qui la personne qui est à votre gauche? Il dit, c'est mon fils. Le Rav, il devait avoir 80 ans, son fils devait avoir 50 ans, comme ça, 30 ans de différence. Et le non-juif lui dit, mais comment vous faites? Il dit, comment vous faites? C'est quoi votre question? Il dit, comment vous avez fait pour éduquer votre fils? Je le vois depuis tout à l'heure. Il passe son temps à vous servir, à vous demander, papa, comment ça va, au petit soin. Mais comment vous avez réussi une éducation de façon aussi forte? Et dis-moi, je vous dis honnêtement, mon fils, tout juste, il ne me crache pas la figure. Comment vous avez fait? Alors il a sourire, alors, il a dit, écoute, je vais t'expliquer, c'est très simple. Toi, ton fils, tu l'as envoyé à l'école. Et à l'école, il a appris. Ouais, il a appris les lois de Darwin. Ouais, les lois de Darwin. Darwinisme. Que l'homme descend du singe. Donc ça veut dire que, d'après la théorie de Darwin, plus on avance dans les siècles, dans les générations, plus on est de plus en plus homme. Mais si on va à reculons, plus on est singe. Et donc, lorsque ton fils, il te regarde, il a l'impression de voir un primate plus ou moins évolué. Sachant qu'en fait, lui, il sera en train de porteur de quelque chose de beaucoup plus évolué. Donc, quelque part, tu lui as appris ça. Tu lui as appris qu'en fait, en fin de compte, ouais, plus on avance, plus on évolue. Et dis-moi, tu sais, mon fils, depuis qu'il est petit, je l'ai amené à la yeshiva, et là-bas, il a appris une seule chose, qu'on descende Moshe Rabbeinu. On descende Moshe Rabbeinu. Qui fait que le savoir, la connaissance, la puissance, elle est derrière nous. Donc, tu sais, mon fils, il a beau avoir 50 ans maintenant, dès qu'il a un problème d'éducation avec ses enfants, il tape à la porte, il dit, papa, comment on fait quand un enfant te répond comme ça? Et quand il a un problème avec son épouse, ouais, il vient taper à la porte, papa, mais comment t'as fait avec maman pour gérer tel et tel souci? C'est que j'ai appris à mon enfant que la Roma, elle est chez moi. Elle est chez mes anciens. Et donc, à chaque fois, mon enfant, tac, il comprend qu'en fait, il y a un trésor incroyable qui est là. Et donc, le respect vient de lui-même. Donc, c'est un petit peu la réponse assez mythique de Rav Moshe, mais qui est très vrai. Quelque chose de très vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable de dire, voilà, moi, je descends de gens illustres qui sont beaucoup plus grands que moi, j'ai ce minimum de modestie, d'une certaine façon, ça oblige l'enfant à comprendre qu'il y a une notion de hauteur qui nous précède. Donc, la question est la suivante ici.
Mais c'est quand même de l'évolution. Je veux dire, la suite, c'est que lui aussi s'éduque. Je veux dire que, en fait, là, j'ai compris qu'on parle du srout avot. J'ai compris qu'on parlait de la.
Pas srout avot, je dis que c'est pas un srout.
C'est pas que chochmat avot, c'est ce voilà. Qu'on appelle maasavot siman labanim aussi. Ça, c'est le même sujet. C'est on voit derrière
près.
Nous qu'il y avait déjà une histoire.
Une histoire, ouais. Mais une puissance aussi. Donc maintenant, la question est la suivante. À partir du moment où on vient nous ancrer ce personnage de Zevulun, précisément dans l'eau, il faut essayer de comprendre qu'il y a quelque chose qu'on veut dire à Zevulun. Tu vas faire ton business à côté de l'eau. Et ceci pour quatre raisons, propose le Pinchas Friedman. La première des raisons, c'est qu'en fait l'eau, dans la symbolique, très souvent, est toujours comparée à la Torah. C'est que, au moment, donc je répète, où Yaakov va bénir ses deux enfants, Ephraim et Menaché, qui va être notre relais de bénédiction pour nos propres fils, à la direction suivante, très connu ce verset, « Amal ragoaloti mikolra » que l'ange qui m'a délivré de tout mal, « Yéverer etenaharim » qu'il bénisse ces jeunes-là, donc Ephraim et Menaché, « Veikare ba'em shemi » puisse-t-il perpétuer mon nom, « Veshem avotai » le nom de mes parents, « Avram veitzrak »« Veid gularov » dit-il, et qu'il puisse se multiplier, pulluler à l'infini, « Bekerev aharetz » au milieu de la contrée. Il a utilisé une image qui est du domaine des Yidgou Dag en hébreu, c'est le poisson. Il bénit, comment dire, ses enfants et frères et ménagers, qu'ils puissent se multiplier comme des poissons. Une notion qui se rapproche du fait de pulluler. Ouais, je voudrais que vous pulluliez. Et Rashi relève cette notion qui est d'Agim à la loup. Ouais, donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez le poisson? Donc cette bénédiction de poisson, ouais, qui va faire plaisir aux Tunisiens, Ouais. Kedagim alalouch et parim verabim, car ces poissons qui fructifient se multiplient sans que le mauvais œil, ve'en ein arachol et tebel, sans que le mauvais œil ne puisse les atteindre, ne puisse avoir une prise sur eux. La bénédiction ultime que Yaakov donne à Ephraim et Menaché, c'est qu'il puisse avoir une reproduction sans être atteint par le mauvais œil. De quel mauvais œil s'agit-il? Ouais. On ne va pas rentrer tout de suite dans les classiques façon thune. On va essayer juste d'essayer de comprendre l'idée qui est mise aussi en exergue. Le NRA, en fin de compte, ouais, on peut rapprocher en fait, ce rachis d'une période assez complexe où les Romains avaient interdit formellement l'enseignement et l'étude de la Torah. Et voilà qu'ils attrapent en flagrant délit Rabbi Akiva qui était en public en train d'enseigner la Torah. À ce moment-là, le gouverneur vient lui dire, il dit, mais t'es malade ou quoi? T'as pas compris que maintenant, c'est hyper dangereux d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, on va vous zigouiller, on va tous vos trucs. À ce moment-là, Rabbi Akiva, il leur a dit, il a donné un machal très connu, une parabole très connue, il dit, je veux raconter une histoire. Il y avait un jour comme ça, des renards qui se promenaient devant une berge, et ils voient comme ça des bancs de poissons qui fuyaient. Alors, ils s'adressent aux poissons, il leur dit, mais dites-moi, pourquoi vous fuyez comme ça? Pourquoi vous avez comme ça le feu aux poudres? Réponse des poissons, il dit, parce qu'en fait, on a peur des filet des pêcheurs qui vont nous attraper, qui vont faire de nous... ils vont nous fumer, comme dirait l'autre, ouais. Donc, on essaie d'échapper au filet. Alors là, on a dit, mais soyez pas bêtes. Venez avec moi ici, sur la terre ferme, et on va tous les deux se cacher, comme ça on sera protégés des chasseurs. À ce moment-là, le poisson s'adresse au renard, on lui dit, mais on nous disait de toi que t'étais l'animal le plus rusé, mais t'es l'animal en fait le plus stupide. Réfléchis un petit peu. Si déjà dans notre propre milieu, dans notre propre environnement, on a des craintes de se faire attraper. Comment veux-tu que si on sort de son environnement naturel dans lequel on n'aura pas d'oxygène, alors ce soit pas pire? Ça va être pire. On n'aura absolument aucune protection. En d'autres termes, en deux mots, ce que voulait dire ici Rabbi Akiva, c'est que de toute façon, la Torah pour un juif, c'est sa vie, c'est son oxygène. Tu es en train de me dire, tu sais quoi, viens, on coupe la bouteille d'oxygène. On essaie de voir ce qui se passe, mais il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Tu me demandes d'arrêter d'enseigner la Torah, c'est-à-dire que tu me demandes de mourir. Donc autant continuer à enseigner la Torah, tout ce que je peux vivre, et au moins tout ce que j'ai pu vivre jusqu'au moment où il va effectivement être pendu en place publique ou je ne sais pas quoi, au moins eh ben, j'aurai continué à vivre de façon intensément. En d'autres termes, l'idée qu'on veut dire à Zevulun, certes, toi Zevulun, tu vas évidemment être investi dans ton business, mais on te rappelle qu'en fait, que ton autre business est dans l'eau, et dans l'eau, il est là pour justement te rappeler qu'il faut que tu comprennes que tu dois forcément avoir un lien avec la Torah. Et comment ce lien, tu vas me dire, mais justement, si tu dis que l'oxygène du juif, c'est l'étude, mais lui, justement, il ne sera pas dans son étude. Comment lui, dans ses sorties, dans son business, puisqu'il n'est pas dans un monde d'études, comment veux-tu que lui ne soit pas asphyxié par cette posture, par ce business? Ouais, puisque tu dis qu'en fait, apparemment, c'est tout à fait c'est essentiel et c'est viscéral pour un juif d'être dans l'étude. L'élément de réponse, c'est en fait que va dire Moshe Rabbeinu, tu peux te réjouir. Ça veut dire, c'est quoi cette réjouissance? T'as pas encore l'argent. Tu peux te réjouir parce qu'en fait, à partir du moment où le produit de ton business, il est consacré dans une partie conséquente à faire de la tzedaka, à aider les pauvres, à être converti dans la possibilité de permettre à ton frère de pouvoir étudier la Torah, donc d'une certaine façon, c'est ça qui te crée un lien direct avec le mérite de Issachar. Et donc à partir de là, tu as de quoi te réjouir parce que cet oxygène essentiel, il a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il peut d'une certaine façon s'associer exactement. Ça veut dire que par le biais de l'argent que tu donnes, qui te permet de t'associer à ton frère, c'est comme si tu étais en train de récupérer des capsules d'oxygène permanentes. Donc ça m'éhare. Zevulun, etc. Tu as de quoi te réjouir, Zevulun, dans ta sortie, parce que d'une certaine façon, tu es en train d'une certaine façon de récupérer l'immunité associée à la dimension de la mer, de l'eau, enfin de la Torah. Et donc cet oxygène, il est pour toi, il n'y a pas de souci. C'est ça que veut dire donc le texte. Ouais. Ça, c'est donc le premier point. Ouais. Premier point par rapport à cette comparaison. On te met comme une sorte de pense-bête à côté de l'eau, Zevulun, pour que tu ne perdes jamais de vue. Il faut que tu aies un lien avec l'eau, c'est-à-dire avec la Torah, ça veut dire que le produit de ce que tu fais doit en partie être consacré tout simplement à la subsistance de la Torah. Premier élément. Deuxième élément, quelle est la symbolique de l'eau? Alors, il y a ici un verset dans Yirmiyahou qui est assez intéressant, je l'ai marqué ici dans le grand 2, nous dit le texte « Aoti lo tira'u ne'um Hashem imipanai Lotahilu, Asher Semti Chol Givulayam, Chokolam, Veloya Vrenu, Veitgaashu, Veloyuchalu, Veemugalav Loyavrun. C'est une période où les Juifs, comme très souvent malheureusement, ils étaient un petit peu rebelles à la Torah, rebelles à tout ce qu'Hachem demandait. À ce moment-là, donc, Yirmiyahou va véhiculer le courroux d'Hachem en disant « Est-ce bien moi que vous ne vénérez pas ?» dit l'Éternel. Donc, ils disent ce que Hachem dit. « Est-ce bien moi devant qui vous refusez de trembler ? Moi qui ai donné le sable comme limite à la mer ?» Écoutez bien l'image. « Comme une barrière éternelle qu'elle ne peut franchir, ses flots se soulèvent, impuissants, ils mugissent mais ne vont pas au-delà. Bon. » Donc, en deux mots, on a un contexte complexe ou classique, où les Juifs sont rebelles à Hachem. Hachem s'énerve. Il dit, mais observez un peu la mer. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Mais vous voyez bien la mer. Il y a un tumulte absolument colossal. Il y a en permanence des vagues à droite et à gauche. Il y a des tourbillons. C'est un truc de fou ce qui se passe dans la mer. Mais regardez, c'est incroyable. J'ai quand même mis une barrière, une limite à la mer qui s'appelle le sable. Et vous voyez bien que les flots ont beau se soulever. Ouais, ils sont impuissants. Ça a beau crier, les vagues ont beau crier, ont beau s'éclater, mais ils n'arrivent pas à dépasser la berge. Une sorte de digue naturelle qui a été mise en place par Hachem, ouais, qui, alors évidemment, on ne parle pas du tsunami ici, mais de façon générale, dans toutes les mers du monde, il n'y a pas un phénomène comme ça, tu vois bien, quoi, quelque chose à placer. Ça veut dire, qu'est-ce qu'Hachem dit ici? Ok, mais moi, je ne suis pas une mer. Enfin, quel rapport? Quel rapport entre moi et la mer? Ouais, bonhomme, il ne respecte pas. Tu dis, mais regarde un peu la mer, elle respecte bien. Respect de la limite qui a été mise en place. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici? Qu'est-ce qu'on veut dire ici dans l'idée? L'idée est la suivante. Ouais. C'est qu'en fait, cette fois-ci, la symbolique de l'eau, c'est plus celle de la Torah. On verra en fait que l'eau peut avoir plusieurs symboliques dans la Torah, plusieurs allégories. Première, donc, on a dit c'est la Torah. Pourquoi la Torah? Parce que très souvent, on dit que l'eau part toujours d'un point avec une hauteur de potentiel, elle va toujours vers le bas. Elle coule l'eau. Ouais. En fait, la Torah, c'est un peu la même chose au niveau de la symbolique. C'est qu'en fait, elle ne se trouve que chez les personnes qui sont capables de se baisser. Toujours d'un point haut vers un point bas, ça veut dire qu'elle se donne vers la personne qui est capable de créer un dénivelé. Ce dénivelé, c'est ta modestie. Ouais. N'existe dans la Torah, ne peut persister dans la Torah que des esprits qui sauront mettre de côté leur orgueil. D'ailleurs, très souvent, la Gemara compare en fait la Torah à un réverbère. Alors, ce n'est pas le petit prince, l'image de la lumière du réverbère. C'est un réverbère dans le sens où un réverbère, plus tu t'éloignes du réverbère, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus ton ombre, elle est gigantesque. Plus tu t'approches du réverbère, plus ton ombre se confond avec toi-même. Alors là, c'est la Torah, c'est la même chose. Plus tu es loin de la Torah, ouais, plus tu as une image de toi complètement colossale. Il suffit de t'approcher un peu de la Torah pour prendre conscience de la juste mesure. Les vrais talmidei chachamim, les vrais maîtres de la Torah, d'ailleurs on les appelle les talmidei chachamim. Talmid veut dire un élève. C'est incroyable pour un maître d'être stigmatisé d'élève. Parce qu'en fait, fondamentalement, moi j'en ai connu des vrais talmidei chachamim. C'est des personnes qui sont toujours assoiffées de connaître. Ils ont toujours l'impression qu'ils ne connaissent rien. Toujours. Et pourtant, ils connaissent, c'est des vrais savants que c'est nous, ces gens. J'en ai côtoyé. Des personnes qui sont toujours en train d'être assoiffées d'études. Ça, c'est le principe du Talmid Chacham. Il existe aussi dans le monde des CNRS. Hein. Je ne vais pas en dire qu'il n'y a que... C'est que non, oui. Mais en général, les vrais grands scientifiques, les vrais grands savants, c'est des gens qui sont modestes. Ce n'est pas des gens qu'on le met en l'air. Ouais. Donc, qu'on le met en l'air, c'est des gens qui sont brillants, et qui ont l'impression que tout leur revient. Mais ce n'est pas ça. Les vrais, vrais, vrais grands savants, c'est des gens qui sont restés eux-mêmes. Donc, un petit peu, c'est l'idée. Alors, ça, c'est donc la première image. La deuxième image, c'est quoi ce flot incroyable, ces tumultes, ces tourbillons, ces vagues incroyables? Alors, en fait, l'idée, c'est que l'eau a aussi une symbolique dans la Kabbalah de tout ce qui s'appelle du domaine du désir. J'ai amené ici donc, la transcription du Shar HaKdusha du Rabbi Chaim Vital qui a écrit tout ce que le Arizal une partie de ce que le Arizal a dit. Et il dit qu'en fait, il y a quatre éléments. Donc, on retrouve ça chez Aristote aussi. Les quatre éléments que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Ouais. Dans ces quatre éléments qui constituent toute la matière. C'est-à-dire, dans n'importe quel atome, tu verras du feu, c'est l'énergie. Tu verras de l'eau, alors, je ne sais pas s'il y a du liquide ou pas. Tu verras la poussière, il y a le minimum de matière. Et tu verras le feu, l'air, matière et de l'air. Donc il y a un espace entre les électrons. Hein. Donc tu vois, ça c'est n'importe quoi. Donc ça c'est la structure même de la physique de toutes choses. Mais cette structure physique n'est que le reflet d'une dimension spirituelle de l'eau, du feu, de l'air et j'en ai oublié un passage de la terre, la poussière, enfin, la poussière. Ouais. Ces quatre éléments c'est ça qui constitue la structure d'une éphèse de l'individu. C'est-à-dire que tous les traits de caractère négatifs d'un individu proviennent de ces quatre éléments essentiels. L'eau, quel est le symbole de l'eau chez l'individu? L'eau, c'est tout ce qui est du domaine, nous dit le Arizal, et ce domaine, il met tananogim. De là provient l'eau qui est à l'intérieur de toi, donc enfin, la dimension eau chez toi, c'est l'amour, le désir de tananogim, de tous les délices. Qui rena ma'im matzmichim kol minetanu, car tu vois bien que l'eau, elle permet de faire croître toute forme de délices. Tous les fruits les plus exotiques qui croissent, ils arrivent à croître par l'eau. Vetol dotea, et les dérivés de ça, shtaim. Donc, le dérivé de l'eau, il y a deux axes. Il y a chemdat l'ixol, le désir de voler mamon chavero, l'argent de son ami, ou bien la femme de son ami. Un désir de vol. Ouais. Chemda, le désir. De vol, vers quoi la chaleur de tout ce qu'il a, c'est-à-dire que le désir de devoir s'emparer de ce qu'a l'autre. Et lorsque tu vas acheter la même Ferrari que ton copain, c'est d'une certaine façon, ouais, on ne désire pas une Ferrari, on désire la Ferrari de ton copain. C'est ça qui se passe chez les gens, ouais, au niveau du délire. Ouais. Je veux la voiture, je veux le pavillon de mon copain. Ouais, quelque part, d'une certaine façon, tu as envie de t'approprier ce qu'il a fondamentalement. Ouais. Donc ça provient de quoi? De cette notion qui s'appelle l'eau qui est à l'intérieur de toi. Et deuxième chose, la kina, la jalousie. Soit le désir d'avoir, soit carrément la kina. Donc tu ne vas pas matérialiser ça par acheter la même Ferrari, mais tu auras quand même la jalousie de ton copain qui donc il aimerait avoir les mêmes outils que son copain pour pouvoir kiffer comme lui. Donc encore une fois, cette dimension de l'eau, c'est ça en fait, si tu veux, qui se trouve à l'intérieur d'un individu. Ouais, alors le afar, par exemple, la poussière, c'est quoi? C'est la paresse de l'individu. Ouais. Et les envies destructrices. Il y a la paresse, il y a l'énergie. Alors le feu, ça va être quoi? C'est le chaos, c'est la colère. Ouais, donc ce sont des éléments naturels chez l'individu. Ouais. Et le roi, alors là cette fois-ci, le roi, c'est quelque chose de, qui peut être positif, c'est la dimension spirituelle de l'individu. Ouais. Donc il y a quatre données.
Signification.
Comment?
Signification. Vous avez parlé des significations.
Oui, des quatre éléments naturels.
Ah, de rester. Ouais. Voilà, j'ai surtout compris l'eau.
Alors, l'eau, j'ai parlé, c'est tout lié au désir. Donc, c'est ça qu'on veut dire de façon subliminale à Zevulun. Zevulun, on veut lui dire que tu vas être au contact d'un monde de l'eau. L'eau rappelle l'idée du désir. Et le désir est un désir assez intéressant. Omar a dit que celui qui a 100, il désire toujours 200. Celui qui a 200, il désire toujours 400. Il y avait un jour en Roshiva qui avait réuni des gens, des gros donateurs comme ça. Et il s'est adressé à eux en disant: venez, vous croyez riche ici, hein. En fait, moi, je suis beaucoup plus riche que vous. Alors qu'on savait que c'était un bonhomme qui n'avait pas le sou, quoi. Il était vraiment... je suis infiniment plus riche que vous. Il y a plusieurs milliardaires. Vous savez, je suis plus riche que vous. C'est pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que celui qui a 100, il désire 200. Comme vous êtes des millionnaires, donc il vous manque, vous, à chacun, des millions. Moi, j'ai rien, donc il me manque beaucoup moins que vous. Il avait nargué un peu. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose dans le monde du désir qui ressemble à l'eau. Qui ressemble à l'eau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une puissance assez incroyable. Il y a des vagues, il y a un tumulte absolument incroyable. Et on vient dire à Zevulun, lui, justement, qui va s'occuper du business, n'oublie pas une chose, c'est que cette dimension du désir doit trouver une berge, doit trouver ce sable. Ça veut dire qu'il faut être capable dans la vie de mettre un cran d'arrêt, sans quoi, tu risquerais, ouais, de vivre dans un monde de frustration, primo, et secondo, tu risquerais de te détourner de ta tâche. Évidemment, il faut que tu puisses soutenir Issachar, mais tu as aussi un devoir d'étudier, un devoir de t'ancrer. Et donc, si tu es trop pris par le tourbillon, c'est qu'à le dire, de ton business, tu risques tout simplement de te détourner de ta voie. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire, donc de façon, une sorte de message. N'oublie pas la Torah, n'oublie pas le danger de la dérive au niveau des désirs. Troisième, avant-dernière, idée. Je démarque ici dans le verset Vayar Elokim et Kol Asher Asa Veine Tov Mot, c'est le dernier verset du premier chapitre de la Torah. Hachem a tout vu, donc il a tout validé, il a tout checké. Vayar Vayboka Yom HaShishi. Ce fut le matin, ce fut le soir, Yom HaShishi, le septième jour. Il n'y a pas marqué Yom HaShishi, le sixième jour, mais le fameux sixième jour. Rashi sur place explique la chose suivante, le est superflu. Yom HaShishi, fallait dire. D'ailleurs, on commence le kiddush comme ça, Yom HaShishi, Vayikrou Lachem Lavet, ouais. Mais c'est pour prendre ce verset, c'est la fin de ce verset. Normalement, on dit Yom HaShishi. On dit Yom Sheni, Yom HaShishi, Yom Revi'i, Yom HaShishi dans la Torah. Il n'y a pas marqué Yom HaShishi. Pourquoi le Yom HaShishi, nous dit Rashi, Le lait superflu dans Hachichi, qui apparaît à la fin de l'œuvre de la création, est destiné à savoir que le saint béni soit-il l'a assorti d'une condition. À savoir qu'Israël accepte les 5 livres, et c'est 5 valeurs numériques 5, donc les 5 livres de la Torah, chiffre exprimé par la lettre E, livre de la Torah, Shabbat. Donc c'est un grand Shabbat. Autre explication, deuxième possibilité. Yom HaShishi, c'est le fameux sixième, c'est-à-dire tout est en suspens dans l'attente du sixième jour, le Sissivan, date à laquelle sera donnée la Torah. En deuxième, on vient de dire ici la chose suivante, qu'il y a une création qui a été faite, tu penses que c'est bon, on peut mettre un point d'ordre? Non. C'est une création qui est en suspens, qui tient sur un fil, qui est soumise à deux types d'acceptation, soit les 5 livres de la Torah par le clan d'Israël, soit, on veut dire ici, Yom HaShishi, le sixième, ça veut dire, il va y avoir un Sissivan, qui est la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah. Et ce don de la Torah, c'est le sixième, ça veut dire, Hachem s'est adressé à toute l'humanité, à Esav, il a dit non, à Ishmael, il a dit non, aux Juifs, ils ont dit oui. Mais s'ils disent non, les Juifs, Reza Shalom, Hachem remet le monde de sa version originelle, c'est-à-dire le Tohu, le magma, l'Apocalypse. Ça veut dire, sous-entendu, nous n'avons de monde que parce que les Juifs ont accepté la Torah. Sous-entendu, le lien que tu tisses avec la Torah et tu permets de justifier l'existence du monde. À partir de là, si on part du principe que c'est grâce aux Juifs que le monde existe, à partir de là, c'est-à-dire que sous-entendu, sans les Juifs, sans l'étude de la Torah des Juifs, je ne parle pas les Juifs, mais sans l'étude de la Torah des Juifs, ouais, alors le monde pourrait être submergé. D'ailleurs, c'est tellement fort cette idée que le Nefesh HaChaim, ouais, donc l'élève du Gaon de Vilna, avait organisé dans sa yeshiva à Volodjin, à Volodjin dans la ville de yeshiva, qu'ils avaient mis en place le concept de yeshiva avec des centaines de bahourim étudiés, il avait mis en place un système des 3-8. Vous savez les 3-8, ouais. Mais en fait, il y avait des gens qui étudiaient dans une plage horaire de 8 heures pour ne pas qu'il y ait un moment dans la journée où il n'y ait pas quelqu'un qui étudie. Pourquoi? Parce qu'il y a un Zohar qui dit que s'il y a un instant dans le monde, où s'arrête l'étude de la Torah, le monde revient à sa version originelle. Ouais. Et certains ont voulu dire que maintenant qu'on n'a plus, si tu veux, cette chance d'avoir des gens qui étudient comme ça des systèmes de 3-8, c'est les États-Unis qui nous sauvent. Vous comprenez ou pas? Parce que les États-Unis, pendant que nous on dort, eux ils sont en train d'étudier. Enfin, il y a au moins quelques gens qui étudient. Cet essor du budget américain est aussi dû, enfin, permet aussi, si vous voulez, l'existence du monde. Donc en tout cas, c'est tiré du Zohar. Maintenant, l'idée est la suivante. Surtout, normalement, le monde, quand tu le vois, il devrait submerger. Ce qui justifie son existence, c'est parce qu'en fait, on étudie la Torah. Si c'est comme ça, alors, il y a une halakha qui est très intéressante. Je pose une question, le Rav Pitras Fedin, il dit comme ça que, normalement, on aurait pu s'attendre dans la vie à une partition suivante entre Yaakov et Esav. Yaakov s'occupe du monde spirituel, l'étude de la Torah, et Esav s'occupe du monde matériel. Depuis quand Zevulun peut s'abroger ce droit de saisir le monde matériel, devenir un businessman? Depuis quand les Juifs peuvent devenir des grands businessmen? Normalement, c'est pas ça leur lieu de prédilection. Hein, ils auraient dû être les fidèles descendants de Yaakov. Ouais. Depuis quand Zevulun, le concept de Zevulun existe dans le monde juif? Et les mondes réponse, de toutes les façons, le monde doit être submergé. Il y a une halakha qui est la suivante. S'il y a comme ça un tsunami qui arrive, ou bien un objet qui tombe dans la mer, et toi, tu la joues le grand bleu, ouais, tu vas aller récupérer cet objet. Il est perdu à jamais. Un objet qui tombe dans la mer, a priori, il est perdu à jamais. Toi, tu prends ton masque et tes palmes, tu vas le récupérer, il est pour toi, d'après l'alakha. C'est que l'alakha te dit quelque chose qui est perdu dans l'océan. Quand tu le trouves, il est à toi. Peu importe s'il y a marqué Monsieur Tartampion, Monsieur Twitou, il est pour toi. Ouais. Parce que de toute façon, il était perdu. Donc, il est sorti, si tu veux, de l'atmosphère. Tu le récupères grâce à tes palmes et ton tuba, il est pour toi. En d'autres termes, le monde, ouais, il est dans cet état d'immersion. Il est plongé, le monde. Ouais. Le fait qu'on étudie la Torah, c'est ce qui nous permet de sauver le monde. On a, par rapport au monde, ce rapport que ça peut nous appartenir, évidemment que si on l'utilise bien, ça, on peut prendre, si tu veux, ce qui aurait dû être naturellement à Esav, dans la mesure où on sauve le monde de l'immersion. C'est un peu comme cet objet qu'on va récupérer. C'est ça, en fait, la justification de Zevulun. C'est-à-dire qu'on vient dire à Zevulun, évidemment, tu veux te déployer dans le business, il n'y a aucun souci, mais n'oublie pas, en fait, que c'est une tolérance qu'on t'a donnée. C'est pas ça ton lieu de prédilection. Ton lieu de prédilection, ça aurait dû être normalement le monde de la Torah, mais comme ce monde est sous-tendu par cette étude de la Torah, alors tu sais quoi? Maintenant, tu peux aller récupérer, si tu veux, tout ce qui est du monde matériel. C'est ça qui te justifie. Hein.
C'est on peut avoir l'eau comme une force purificatrice.
Dernier élément, quatrième point, c'est le dernier élément qui l'amène, c'est qu'il y a une halakha qui est marquée ici dans le verset dans Vayikra. Tout ce que tu présenteras comme oblation, ouais, donc les korbanot, tous les sacrifices, tu le garniras de sel et tu n'omettras point ce sel, signe d'alliance avec ton Dieu. À côté de ton oblation, à toutes les offrandes, tu joindras du sel. En d'autres termes, il existe un aliment, enfin un ingrédient, une épice essentielle dans le monde des korban, dans le monde du Beit Hamidash, c'est le sel. Me dit Rashi, quelle est l'importance de ce sel ? Une alliance a été contractée, il y a une alliance qui a été mise en place entre Hachem, avec le sel lors des six jours de la création, au terme de laquelle il a été promis aux eaux d'en bas d'être présentés sur l'autel sous forme de sel et sous forme de Nisur Hamaim. En d'autres termes, vous savez que au début, le monde était à queue, puis que je beaucoup à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ouais. Maintenant, ces eaux d'en haut, en tout cas, si vous voulez les voir, il y a des planètes entières qui sont des planètes de glace. Ouais. Je crois que Jupiter, je crois. Enfin, il y a des... Non, c'est pas Jupiter, c'est laquelle ?
C'est le gaz. Mars.
De... Bon, je sais pas. Pas. En tout cas, il y a une séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas qui a été mise en place. Et nous dit le Midrash que les eaux d'en bas ont commencé à se plaindre en disant, en pleurant, on appelle ça des eaux pleureuses, comme les sols pleurés et des eaux pleureuses. Parce qu'en fait, d'un coup, elles ont été reléguées au statut de mer, au statut d'océan. Mais quelque part, donc, elles ont dit, mais c'est pas normal, nous, on a été relégués à ce stade inférieur. On aurait tellement préféré être dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu, là-haut. Alors c'est extrêmement bizarre ce midrash parce qu'en fait on comprend pas très bien depuis quand lorsqu'on donne Hachem donne un rôle on commence à pleurer. Ouais. N'hésitez pas à partir hein, si on passe. Oui c'est plus tard. Donc depuis quand lorsqu'on donne un rôle à quelqu'un si tu vois bien qu'on a donné un rôle au Israël et un rôle au Cohen, on n'a jamais vu des Israël qui vont se dire oh, mais j'en ai marre de ces Kohenim qui prennent toujours la première place et qui seront au Beit Hamidash. Tu vois bien que c'est comme ça que j'ai été créé Israël, t'es créé Cohen, tu vois. Deuxième chose au niveau du sel. Ouais, des eaux d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils auraient préféré être à côté d'Hachem et que je ne peux pas partout ? Ça n'a aucun sens. Ouais, ça ne veut rien dire de dire qu'ils sont loin d'Hachem, ils sont partout d'Hachem, ils remplissent tout le monde. L'élément de réponse qu'il faut donner ici, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas ont un point de communication qui ressemble, salut, à la notion de mikvé. Lorsqu'on crée un mikvé, vous savez qu'un mikvé, c'est la connexion avec une eau qui est totalement naturelle, une eau de pluie. Maintenant, lorsque tu as par exemple dans... Imagine que tu es un fleuve qui est attenant à une mer. Tant qu'il y a un point de hachaka, hachaka ça veut dire embrasser. Neshika en hébreu, c'est embrasser. Tant qu'il y a un point de hachaka suffisamment grand qui te permet de communiquer le petit bassin d'eau à la mer, qui est elle un mikvé parfait, ouais, et ben, ce petit bassin d'eau, même s'il n'a pas les dimensions nécessaires de 40 CA, et ben, on peut se baigner dedans et tremper un ustensile et se tromper soi-même. Ouais. Deuxième truc intéressant, même lorsque on est dans de l'eau qui est chez Ouvi, mais une eau qui a subi l'intervention humaine qui rend le mikvé pas pur. Oui, ouais. Mais à partir du moment où cette eau en question, qui est un bassin que tu as allumé avec ton robinet, donc c'est pas du tout, il est en HHK aussi, il est en embrassade, avec un bassin qui lui est parfait, ce qui va dans tous les mikvés de Paris, enfin de France et de Navarre et du monde. Eh ben, à partir du moment où il est en connexion, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que puisque ça connecte avec une eau pure qui, elle, provient effectivement des pluies, ouais, alors, c'est-à-dire que ça enlève le problème, donc la connexion avec cette eau d'en bas et eau d'en haut te permet de pouvoir quelque part justifier, enfin, de pouvoir connecter avec le monde spirituel. C'est un petit peu ça qui se passe. Le fait que le sel de la mer va être incorporé dans le Beit Hamikdash, c'est ça ce point de trait d'union. Donc ça qu'on vient dire, dernier élément de purification dont tu parles, c'est qu'en fait, Zevulun, on le met à côté de l'eau, pas simplement parce qu'en fait, l'eau, c'est le symbole de la Torah, parce que l'eau, c'est le symbole du désir, il faut être capable de désir. Pas simplement parce qu'en fait, l'eau est là pour te montrer qu'en fait, il y a une justification à ce que tu fais, parce que sans quoi, bah, le monde retournait à l'eau, c'est aussi pour te faire prendre conscience que tu es en train de créer une embrassade avec ton frère. C'est quoi cette embrassade ? C'est que quelque part, tout le business que tu mets en place est en train de se connecter avec les eaux d'en haut. Il y a le monde de la spiritualité qui est en train de se connecter, le monde de la matérialité. C'est un mariage absolument incroyable qui existe ici, qui n'a pas réussi avec Yaakov Esav, qui a réussi avec Issachar et Zevulun. Ça, c'est le point essentiel qui est mis en place ici en exergue. Et ça, en fait, de façon prophétique, vient dire Yaakov, Zevulun, ton lieu, c'est l'eau. Et c'est là que tu pourras drainer tous les enseignements. Je m'arrête là et je vous souhaite Shabbat Shalom.